Au fil de l'eau revient sur cette antenne radio-judaïque. Devant l'eau profonde du fleuve, vous pouvez choisir différentes visions. Vous pouvez voir ou ne pas voir, au gré de vos envies. L'eau est immobile ou avec un courant, mais les fleuves, les rivières de notre belle région sont sans ambiguïté. Car si on veut voir, c'est magnifique, et si on veut entendre, c'est splendide.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier.
Alors, nous allons découvrir ce monde de la batellerie et des mariniers à travers des rencontres, des reportages, des coups de cœur, beaucoup d'émotions au fil de l'eau. Embarquez. Jean-Paul, bonjour.
Oui, bonjour.
Tu t'appelles Jean-Paul comment ?
Jean-Paul Probst.
Probst. Voilà. Quelle année ?
En quelle année je suis né ?
Oui.
En 48.
Oh, un jeune homme. Et sous quel signe ?
Sous le signe du cancer. Il paraît que c'est un bon signe de tolérance. Les gens me disent d'ailleurs que je suis assez cool.
Voilà, faut mieux se faire sa promo soi-même.
Oui, exactement.
Allez, on y va.
Quand on est pirate, il faut être acrobate et savoir grimper sans se casser le nez. Oh, is, oh, is, oh, eh. Pour rire et s'amuser, il n'y a rien qui batte la vie de pirate.
Alors Jean-Paul, quel est le cursus pour terminer ta carrière comme directeur de la CAF ? Quelles sont les formations qu'il faut faire ?
Comme président.
Comme président. Oui, oh là là, oui. Président, excuse-moi.
Il y a une petite différence entre président et directeur.
Tu me l'expliqueras du reste.
Il y a une grande différence, c'est que le président est bénévole et le directeur est payé.
Ah, ça c'est très important.
Mais avant d'arriver au poste de président de la CNAF, la Caisse Nationale des Allocations Familiales, il faut que j'explique un tout petit peu mon cursus.
Oui.
Donc j'ai fait un cursus classique, j'ai fait des études classiques, j'ai fait notamment l'Institut d'économie appliquée aux affaires, qui faisait partie à l'époque de la série des instituts d'administration des entreprises. Aujourd'hui c'est regroupé avec l'école de gestion de Strasbourg. J'ai fait ensuite une formation complémentaire de l'ICG, donc l'Institut du contrôle de gestion. J'ai fait un petit stage aussi, à l'INSEAD, sur le côté développement des entreprises exportatrices. Et donc j'ai fait un certain nombre de jobs dans 4-5 entreprises, dont la dernière, avant que je me lance à mon compte, était celle de consultant, donc de conseiller de gestion à la Chambre de métiers d'Alsace. Et à ce titre-là, je m'occupais des problèmes des entreprises qui avaient des problèmes d'emploi, puis des problèmes de sous-traitance, puis des problèmes d'exportation. Je réalisais quelques stands d'entreprises artisanales à l'étranger, notamment en Allemagne, ou en Suisse, ou au Luxembourg. Et puis, progressivement, je me suis intéressé à... Parce qu'on m'avait demandé d'être administrateur d'une caisse de retraite complémentaire, je me suis intéressé aux organismes sociaux. Au bout d'une dizaine d'années passées à la chambre de métiers, je travaillais beaucoup avec la chambre de commerce, puisque les entreprises alsaciennes exportaient soit parce qu'elles relevaient de la chambre de commerce, soit parce qu'elles relevaient de la chambre de métiers. Eh bien, je me suis lancé à mon compte pour être consultant auprès d'organismes sociaux, donc caisses de retraite complémentaires, prévoyance, petites sociétés d'assurance qui en faisaient partie, etc. Donc c'est un univers très particulier où on rencontre beaucoup d'administrateurs bénévoles, des dirigeants qui ont une fibre un peu sociale, et puis des gens qui ne raisonnent pas forcément à très court terme, mais qui acceptent de raisonner à moyen et long terme.
Alors, bien sûr, le sujet des retraites est très actuel.
Oui, absolument. Mais il était déjà à mon époque.
Il était toujours déjà à ton époque.
Déjà à mon époque. Moi, je me rappelle avoir fait partie d'une délégation qui avait été consulté par l'équipe Rocard. Rocard avait nommé une petite commission pour faire le point de l'état de la situation. Et puis, cette commission avait été présidée par un type qui s'appelait Lenoir, qui était un ancien secrétaire d'État. Et à l'époque, comme je m'étais un peu spécialisé dans les systèmes de retraite complémentaire, je sais que j'avais expliqué à Lenoir et à son équipe l'intérêt et l'avantage des systèmes par points, puisque c'est ce système qui régit les systèmes ARCO et AGIRC, donc retraite complémentaire des salariés du privé. J'ai constaté malheureusement l'année dernière que Macron avait essayé de reprendre cette idée avec Delevoye, mais qu'ils ont complètement galvaudé l'idée en voulant faire trop bien, en essayant de dire à la fois on va fusionner les régimes des fonctionnaires, les régimes spéciaux, les régimes des salariés. Forcément, lorsqu'on fusionne ou lorsqu'on essaye de fusionner ces trois grands types de régimes, il y a forcément des perdants. Et je crois qu'en plus, leur système qui avait été mis au point n'était pas très clair. Ils voulaient se laisser beaucoup de souplesse pour pouvoir donner tantôt des avantages aux fonctionnaires, tantôt à certains régimes spéciaux. Finalement, tout ça a capoté. Et l'actuel projet, on constatera qu'il ne concernera que le système de retraite des salariés. Donc on laisse de côté, une fois de plus, on laisse de côté le régime spécial des fonctionnaires, qui n'est calculé que sur les 6 derniers mois de salaire. On laisse de côté le régime de ceux qui ont des statuts spéciaux.
Tels les journalistes.
Comme les journalistes, EDF, l'Opéra de Paris, la SNCF, etc. Et une fois de plus, on va durcir le système des salariés qui sont, depuis une trentaine d'années, taillables et corvéables à merci dans le domaine des retraites.
Incroyable. Alors, bien sûr, on ne va pas parler de ça tout le long de cette fois. Je sais que tu es un homme aujourd'hui à la retraite.
Oui.
Mais avant tout, de ton expérience de président, tu en retires quoi de cette expérience de président d'un très grand organisme comme la CAF ?
Oui, alors, avant d'être président, j'étais administrateur de la Caisse nationale des allocations familiales, comme d'autres. L'intérêt des conseils d'administration de ce genre d'organisme, que ce soit la CNAF ou la CNAM, ou la COS, ou la Caisse d'assurance vieillesse, c'est qu'elle est dans les conseils d'administration, on trouve des représentants des syndicats, de tous les syndicats, des représentants de toutes les formes de patronat, des personnes qualifiées, puisque l'État veut bien injecter quelques personnes qui contrôlent, des associations diverses. Et non seulement il faut tenir compte, il faut savoir faire un peu la synthèse entre les desiderata des uns et des autres, mais il faut également voir quels sont les objectifs de l'État, puisqu'à tout moment, l'État peut s'adresser au conseil d'administration pour lui soumettre des lois, des projets de loi, des décrets d'application. Et parfois, l'État a besoin du conseil d'administration pour soutenir ce qu'il a envie de faire, mais parfois... on est à la limite du cynisme, puisque parfois ils ne consultent ces caisses que pour avis, et ils s'en foutent totalement de leur avis, qu'il soit négatif ou positif, ils n'ont parfois rien à foutre.
Alors, de toute cette expérience et toute cette période, beaucoup de réunions.
Oui, alors il y a eu des choses intéressantes. À l'époque, j'étais jeune, idéaliste, et je pensais pouvoir un peu apporter ma contribution à l'édification de ce monde. Par exemple, j'ai réussi à faire quelque chose, je ne sais pas si c'est bien ou mal, lorsqu'en 93, Balladur... Donc j'étais président de 1992 jusqu'en 2000. Et lorsque Balladur a été nommé Premier ministre en 93, donc on avait un système de cohabitation entre Mitterrand et Balladur et son équipe, plutôt de droite, Balladur voulait a lancé un grand contrat. Il voulait ramasser 100 milliards de francs à l'époque, on parlait de francs. Il voulait lancer un emprunt de 100 millions pour les réinjecter dans l'économie, pour relancer l'économie française. Cette affaire a très bien marché. Dès fin juin 1993, il avait réussi à émettre pour 100 milliards de francs d'emprunt. Et c'était censé soutenir la relance de l'économie française. À ce moment-là, j'étais président de la CNAF et je lui ai fait une petite note. J'avais consulté mes services, mais j'avais fait une petite note que j'ai passé à sa conseillère technique, qu'il a passé à son directeur, qu'il a passé à Balladur, en disant, écoutez, relancer l'économie française, c'est très bien, mais dans l'économie française, il y a un des agents qui s'appelle les ménages, les foyers, et ce serait bien aussi de penser à eux. C'est bien de penser à l'industrie, au commerce, mais c'est bien aussi de soutenir les différentes formes de ménage, notamment, surtout qu'il y a des ménages qui sont parfois précaires, difficiles, etc. Et j'avais soumis une 7 ou 8 propositions. J'en citerai que deux. L'une qui n'a pas été retenue, j'avais émis l'idée d'un 13e mois des allocations familiales, payable en décembre. Donc ça aurait permis aux gens de mieux passer les fêtes. Et puis, une deuxième proposition, j'avais émis l'idée de donner une prime spéciale aux familles à la rentrée scolaire. Et bien, c'est cette idée-là qui a été retenue par Balladur.
Et c'est la fameuse prime.
Et c'est avec cette idée-là qu'est né ce qu'on appelle aujourd'hui l'allocation de rentrée scolaire. Scolaire.
Superbe. Alors, on va écouter ton choix musical. Tu peux nous le donner ?
Alors, le premier choix, je pense que c'est une musique de Peer Gynt qui s'appelle La chanson de Solveig. Alors, simplement, un petit rappel. Solveig, c'est vrai que Peer Gynt est un compositeur norvégien qui n'est pas du tout connu en France, mais qui reprend un peu l'idée de Voltaire, de Candide. Candide, par Mons et par Vaux, et sa conclusion, c'est « Retournons au pays, cultiver notre jardin ». Eh bien, pour Solveig, enfin pour Peer Gynt, c'est un peu la même chose. Le héros doit épouser Solveig, mais il dit « Attends-moi, je pars conquérir le monde », et il revient abattu, courbaturé, amoché, et Solveig l'attend, et n'attend que lui pour finir ses jours.
Écoutons ces notes, toutes poétiques. Sur ces belles notes douces, c'est vrai que tu me dis que ce compositeur est considéré en Norvège comme un Verdi.
Ah oui, 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 c'est l'équivalent de Verdi.
Verdi, je ne connaissais pas. Merci de cette découverte. Alors, dans les découvertes, tu es un passionné de l'Alsace, de son histoire, et tu as trois hommes qui, pour toi, sont des hommes forts de notre belle région. Alors, le premier, la Nef des Fous, on navigue, bien sûr, c'est...
Oui, donc le premier, c'est Sébastien Brandt, Jean-Sébastien Brandt.
Précurseur de la folie.
Précurseur, enfin, qui a décrit la folie, lui-même n'était pas fou, au contraire.
Non, bien au contraire.
Donc il est né à Strasbourg, il a passé une partie de son activité professionnelle à Bâle, puis il est revenu à Strasbourg. Il a écrit dans les années 1450 La Nef des Fous. Alors il faut la lire dans une version moderne, parce que si on s'amuse à lire le vieux français, c'est parfois un peu difficile. Mais ce que je trouve intéressant dans La Nef des Fous, c'est que non seulement c'est toujours d'actualité, mais il a décrit les travers des gens qu'il avait côtoyés. Et il s'était moqué un peu de tout le monde. Il s'était moqué des instances établies, donc à l'époque c'était l'Église. Il s'était moqué des fonctionnaires municipaux, il s'était moqué des militaires.
Des bourgeois.
Des pédants, des paysans qui voulaient montrer qu'ils avaient quelques fortunes, des lourdeaux qui ne pensaient qu'à s'amuser, des gens qui ne pensaient qu'à s'endetter. Enfin, on retrouve à travers les histoires racontées par Jean-Sébastien Brandt, on retrouve tous les travers de l'humanité. Et notamment, ce qui me plaît dans cette description, c'est qu'on retrouve un peu le côté coquin de l'Alsacien. À savoir, c'est un bon vivant, il sait rire de lui-même, il sait critiquer lorsque la critique en vaut la peine, il peut s'attaquer à tous les corps établis.
Alors, ton deuxième, c'est un peu une légende dans le protestantisme, dans, je dirais, une forme de don à, vis-à-vis de l'Afrique, c'est...
Oui, le deuxième, ce serait Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, qui est né en Alsace en 1875, donc à une époque où l'Alsace avait été annexée à l'Allemagne, ce qui va lui poser des problèmes par la suite. Son père était pasteur, son grand-père était pasteur, il est issu d'une longue lignée de pasteurs, lui-même a choisi d'être pasteur, et il était directeur au séminaire, au grand séminaire de Strasbourg, et il s'est dit finalement, ma vie ne peut pas se résumer ni à enseigner, ni à faire des sermons, il faut que je trouve autre chose. Il est allé au Gabon, il a vu que les conditions de vie étaient misérables. Et il s'est dit, mais finalement, ils n'ont pas besoin d'un pasteur, ils ont besoin d'un médecin. Il est revenu à Strasbourg, il a fait des études de médecine et de chirurgie. Il est retourné au Gabon, il a créé un hôpital à Lambaréné. Et ensuite, il a épousé une de ses cousines. Il a eu une fille et il a vécu essentiellement à Lambaréné. Pour l'anecdote, en 1917, alors qu'on était en pleine Première Guerre mondiale, les gendarmes français sont venus à Lambaréné pour l'arrêter, puisqu'il avait la nationalité allemande, et à l'époque, on considérait que tout Allemand était un traître en puissance ou un espion en puissance, et il a été interné dans un camp d'internement en France.
Et alors, tu sais qu'à l'époque, les gens faisaient des dons et ils envoyaient des poules, parce qu'on pouvait pas voir, parce qu'ils avaient demandé pour la nourriture, dont la fameuse poule noire que tu vois sur les dessins des assiettes loups, la poule noire et tout, qui est une poule qui n'a pas de grande qualité de chair, mais qui a une qualité de résistance. Et c'est vraiment la poule alsacienne. Et cette poule a disparu, quasiment disparu, et elle a été réimplantée dans les années 2000 grâce aux élevages de Lambaréné, où il y avait des poules noires, et on les a réimplantées en Alsace. Ah. Voilà, c'est une belle histoire encore.
Que je ne connaissais pas.
Voilà. Et le troisième ?
Alors le troisième, c'est un peu particulier, parce que le troisième personnage qui m'a marqué, c'est un historien, Marc Bloch, qui était prof d'histoire, qui a enseigné à Strasbourg, ensuite à la Sorbonne, qui a fait la Première Guerre mondiale, qui est devenu capitaine de réserve, qui a été mobilisé en 1940 pour la Deuxième Guerre mondiale, et qui a écrit un livre que je trouve extraordinaire, d'une actualité terrible, et le livre s'appelle « L'étrange défaite ». Il a essayé d'analyser pourquoi la France a cédé en quelques mois devant les hordes allemandes, devant les hordes nazies. Et notamment, il dit que l'état-major avait mal préparé, puisque l'état-major français avait tout misé sur la ligne Maginot, mais les Allemands l'ont contourné. L'état-major en était encore resté aux conditions de guerre de 14-18, donc on avait toujours un peu une guerre de retard en France, et il disait même que une partie de la haute bourgeoisie française n'était finalement peut-être pas mécontente d'être soumise à l'Allemagne, puisqu'il préférait être soumise à l'Allemagne plutôt qu'au
communisme. Et au communisme.
Ils avaient surtout peur du communisme.
Surtout peur du communisme.
Et je trouve que là aussi, Marc Bloch nous montre qu'il faut savoir sortir des sentiers battus. Ce n'est pas parce qu'on est français, et même capitaine français, qu'on ne peut pas se permettre de critiquer ni l'armée française, ni les hommes politiques français, et qu'il faut avoir le courage de savoir analyser la véritable situation. Or, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays, nous manquons de Marc Bloch. D'ailleurs, je pense qu'il serait intéressant que d'ici 10, 20, 30 ou 40 ans, il y ait de nouveau un Marc Bloch qui nous décrive ce qui s'est vraiment passé en France en ce moment. France où on voit sur le plan économique, politique, commercial, un délitement complet.
Un délitement complet. Alors, tu as choisi un grand moment. Tu as choisi un grand chanteur, Aznavour.
Oui. Aznavour. Alors pourquoi Aznavour ? Parce que quand j'étais président de la CNAF, à un moment donné, je l'ai rencontré sur un plateau de RTL. et nous avions discuté pendant une demi-heure, et je trouvais que, malgré le fossé qui nous séparait, il était riche, je n'étais rien, il était célèbre, je n'étais rien, il avait de l'entre-gen, je n'étais rien, eh bien, il a su se montrer intelligent, ouvert, pas pédant du tout, abordable.
Il n'était pas en haut de l'affiche.
Et j'ai trouvé que ce type-là méritait d'être mieux connu et mieux estimé.
Il n'était pas en haut de l'affiche, mais ce n'est pas ce qu'on va entendre.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, de reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi.
Emmenez-moi. Voilà, c'est beau. Alors écoute, on a parlé de ces trois hommes. Moi, je voudrais te revenir parce qu'il nous reste quelques minutes. Comment tu vois cette année 2023 ?
Alors, sur le plan économique, je trouve qu'on est en train de cumuler beaucoup de handicaps. Sur le plan de l'inflation, on sent que la Banque centrale n'est pas à la hauteur, puisqu'elle a d'abord inondé le monde entier de faux billets, que ce soit la Fed aux États-Unis ou que ce soit la Banque centrale en Europe. Inondant le pays et tous les pays européens de faux billets, ben, on a fait baisser la valeur de l'euro et la valeur du dollar. Donc nos monnaies ne valent plus grand-chose. L'inflation est toujours très forte. On a trouvé l'astuce de nous mettre en difficulté en refusant tout approvisionnement en énergie de la part de la Russie pour un conflit dans lequel on n'est pas partie prenante. En fait, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Enfin, l'Ukraine était un pays périphérique de la Russie. On aurait très bien pu trouver d'autres arrangements pour aider l'Ukraine que de se couper de l'approvisionnement de la Russie. Donc, on est en train de mettre en difficulté les petites entreprises, les petites et grandes entreprises, notamment celles qui utilisent de l'énergie. Cela va entraîner la fermeture d'entreprises, donc ça va entraîner du chômage, donc ça va entraîner des difficultés supplémentaires. Et résultat, non seulement ça entraîne des difficultés supplémentaires pour nous, en Europe, et notamment en France, mais nos grandes entreprises vont délocaliser dans des pays où l'énergie est peu chère, notamment en Asie, aux États-Unis et au Maghreb. Donc on est en train de jouer contre notre camp, et quand on voit le comportement de nos hommes politiques, dont une partie est corrompue, puisque je rappelle que l'une des vice-présidentes du Parlement européen a été arrêtée pour trafic d'influence au profit du Qatar, une partie est corrompue, une partie est à la solde des États-Unis, puisque on voit bien quels sont les intérêts des États-Unis à nous couper de la Russie. C'est d'affaiblir la Russie, mais c'est aussi d'affaiblir l'Europe, puisqu'on est obligé d'acheter le gaz et le pétrole de schiste très 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 cher, enfin 4 fois plus cher que les Américains. Donc on est en train de nous couper de nos bases, de nos fournisseurs traditionnels, pour nous mettre sous la coupe de fournisseurs qui ne seront pas plus indulgents. Donc je vois beaucoup de difficultés pour nous.
Jean-Paul, une note positive quand même. On est en début janvier 2023. Un petit truc positif, un rayon de soleil, quelque chose, non?
Un rayon de soleil, c'est lisez le torchis, puisque je contribue également à alimenter par certains articles la petite revue letorchis.com. Et je pense que de temps en temps, on essaye de trouver des notes d'information positives au travers du torchis.
Alors, le dernier point que j'aimerais évoquer avec toi, tu as parlé d'hommes célèbres alsaciens, mais en tant qu'artiste, as-tu un Alsacien, parce que tu as parlé d'hommes plus ou moins politiques, mais un artiste qui t'a un peu marqué en tant qu'Alsacien?
Je dirais, il y a deux noms qui me viennent à l'esprit. Un, des années 1900, Stoskopf, qui a fait des pièces de théâtre, dont notamment l'une, la traduction c'est Monsieur le Maire, mais en alsacien de Herr Maire, pièce dans laquelle il se moquait des Allemands, alors qu'on était sous occupation allemande, je rappelle, dans les années 1900. On n'avait ni le droit de se moquer des Allemands, ni le droit de s'opposer aux Allemands, ni le droit de parler français. Eh bien, au travers de cette pièce, il s'est moqué, il a ridiculisé les Allemands, puisque, en gros, la pièce concerne un journaliste allemand qui est venu s'informer auprès d'un maire alsacien du fonctionnement de sa mairie. Et puis, un deuxième artiste que j'aime beaucoup, ce serait Tommy Ungerer, qui, par son outrecuidance, sa gouaille, ses dessins parfois un peu osés, a montré que l'Alsace n'était pas simplement une Alsace traditionnelle, mais qu'elle savait également montrer des aspects inédits et montrer que, au travers de toutes les difficultés que nous avions éprouvé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y avait des signes qui montraient que l'Alsace pouvait être belle, intelligente, amusante et destinée à avoir une autre vocation que celle d'être aux ordres.
Et ben voilà une bonne note positive pour cette année 2023, l'Alsace, notre belle Alsace. Eh ben, Jean-Paul, c'est déjà fini. On va relarguer les amarres, comme ça on va repartir. Voilà. Eh ben, à la semaine prochaine.
Merci.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier, martelé au rythme d'un moteur régulier. Un bruit répétitif aux effluves de gasoil. Et ça cogne du cœur jusque dans la cale. À la croisée des usines et des cathédrales, des jours passés à noyer le temps et les paysages.